Pour commencer, j'aimerais vous lire quelques extraits de l'Évangile selon Matthieu. J'affiche quelques phrases clés et les références. Certains ont été déjà évoqués ce matin pendant le culte. Matthieu chapitre 1, versets 20 à 23. Ce que l'ange dit à Joseph, à Marie. Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Et puisque c'est un dimanche de baptême aussi, je vous invite à deux chapitres plus tard, chapitre 3, le baptême de Jésus, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse-moi faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et puis, les derniers versets de cette même évangile, Matthieu 28, que JP nous a déjà un peu lu, Matthieu 28, qui assemble plusieurs idées. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors ce matin, le message sera un peu différent. Ce serait un peu cours d'histoire, un peu révision des cours découvertes, nos cours découvertes qui servent à préparer les baptisés, notamment la première leçon, et un peu célébration ludique de Noël. Or, cette année, 2025, est la 1700e anniversaire d'un événement hyper important dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de l'Occident. L'événement, il s'agit du Concile de Nicée. Peut-être ça ne vous parle pas, mais il y a 1700 ans, il y avait le Concile de Nicée. Et je me dis, ce n'est pas tous les jours qu'on fête le 1700e anniversaire de quelque chose. Donc, c'est l'occasion ou jamais d'en parler. Donc, ce matin, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël depuis Nicée. Alors, Nicée, c'est une ville près d'Istanbul, près de Constantinople, autrefois appelée. Et c'est là, en l'an 325, donc 1700 ans auparavant, que des responsables d'église du monde entier se sont rassemblés pour trancher des questions doctrinales et pratiques concernant la foi chrétienne. Alors, dans l'ordre du jour du concile, il y avait plein de questions qui sont dues traiter. Par exemple, à quelle date fêter Pâques? Le 14 du mois ou le dimanche? Ils ont tranché pour le dimanche. Autre question, doit-on s'agenouiller pendant le culte du dimanche? Ils ont dit non, le dimanche c'est la résurrection, c'est la joie, donc il vaut mieux se lever. Peut-être c'est pourquoi on se lève pendant nos chants. Autre question, est-ce que l'autocastration est une discipline spirituelle pratique? Heureusement, ils ont tranché non. Ça, c'est des questions secondaires. Mais la grande question, l'impact majeur du Concile, c'était une articulation de l'essentiel de la foi chrétienne. Et ils ont publié un document à la fin des débats qui s'appelle le symbole de Nicée, le credo de Nicée. Et on peut dire que c'est un condensé peut-être le plus basique, le plus accessible pour résumer le Dieu en qui il faut croire pour le salut, le Dieu que nous adorons dimanche après dimanche. Donc, quelque part, c'était une des premières confessions de foi chrétienne. C'était l'original cours découverte, si vous voulez, parce que c'est ainsi aussi qu'ils préparaient les gens au baptême, ce qui était parfois prononcé lors des, culte de baptême, il y avait déjà le symbole des apôtres, mais maintenant le symbole de Nicée a précisé des choses encore plus. Donc voici la version de 325, ça a été modifié peu après pour préciser, mais ici l'original. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu, s'est incarné, donc ça c'est Noël, et s'est fait homme, a souffert, et ressuscité le troisième jour, et monté aux cieux, et viendra de nouveau juger les vivants et les morts, et au Saint-Esprit. Avec cet complément, ceux qui disent « il y a un temps où le Fils n'était pas, ou qu'avant de naître il n'était pas, ou qu'il a été fait comme les êtres tirés du néant, ou qu'il est d'une substance, d'une essence différente de Dieu, ou qu'il a été créé, ou que le Fils de Dieu est muable et sujet au changement, eh bien l'Église catholique, petit c dans le sens universel, l'Église catholique et apostolique les anathématise, dans le sens que disait Paul, ceux qui annoncent un évangile différent, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit exclu du salut. Ça, c'est le symbole de Nicée. Donc, si vous êtes chrétien, ça mérite de le savoir, de connaître son histoire. En tant que protestant évangélique, nous n'avons pas une liturgie très renforcée, très protocolaire dans les dimanches de nos cultes, mais nous croyons ces choses, nous les affirmons. Et selon un historien, le credo de Nicée est peut-être le credo le plus célèbre, le plus influent de l'histoire de l'Église, car il a réglé la question de savoir comment les chrétiens peuvent adorer un seul Dieu, tout en affirmant que ce Dieu est trois personnes. C'était la première confession de foi à donner une articulation précise de la divinité de Christ. Il y avait le symbole des apôtres, mais le symbole des apôtres n'a pas précisé autant la divinité de Jésus-Christ. Et c'était la première confession de foi à être reconnue dans toutes les églises chrétiennes du monde de l'époque. Donc c'était quelque chose. Alors bien sûr, ce n'est pas en récitant bêtement ou même en affirmant ce credo que forcément vous êtes chrétien. Il y a une œuvre spirituelle dans le cœur, si tu crois dans ton cœur, disait le verset tout à l'heure, et puis il faut croire en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Mais donc c'est pas en résistant au credo que on est forcément chrétien, mais en reniant ce credo, on n'est forcément pas chrétien. Donc, et c'est en ça que c'est un guide pour l'Église. Et donc j'aimerais revoir l'histoire que je trouve intéressante. Évidemment, l'histoire de Noël qu'on trouve dans la Bible est plus importante que l'histoire de Nicée qu'on trouve dans Wikipédia ou dans les livres d'histoire. Je tiens à le signaler ce matin. Mais ce serait ingrat, ce serait naïf de notre part de ne pas reconnaître que nous sommes bénéficiaires aujourd'hui de ceux qui nous ont précédés et qui ont beaucoup réfléchi, débattu, écrit pour articuler, préciser une foi, une pratique chrétienne qui soit fidèle à l'ensemble des textes bibliques. Alors pour apprécier cet héritage de Nicée, je propose de revoir les personnages principaux ce matin, donc je n'ai pas trois points comme d'habitude, on ne fera pas un exposé d'un texte biblique comme nous faisons dimanche après dimanche, mais ce matin on change un peu, c'est Noël, c'est l'occasion de le faire, en cet anniversaire du Concile de Nicée. Donc on va revoir les personnages principaux de l'histoire. Je fais une présentation volontairement ludique pour rappeler que lorsqu'on met des personnes imparfaites ensemble, il y aura des imperfections, il y aura des problèmes, il y aura des bizarreries, il y aura de l'humain. Mais le miracle, c'est que Dieu préserve sa parole, il préserve la vérité de l'Évangile au fil des siècles, en passant par des gens comme nous, en passant par des églises comme la nôtre. Et nous voici encore 2025 ans à peu près après Jésus-Christ, 1700 ans après le Concile de Nicée, et nous avons accès au message qui sauve, au Dieu sauveur, et ça c'est merveilleux. Donc je rappelle encore, le concile de Nicée, même le symbole, les détails historiques que je pourrais vous donner ce matin, ne sont pas inspirés ou inhérents comme l'est la parole de Dieu. Je veux que vous soyez surtout attachés à la parole de Dieu. Mais j'espère que l'histoire de Nicée peut vous aider à mieux comprendre la Bible et votre foi et augmenter votre joie à Noël. Parce que j'aimerais dire ce matin que dans le joyeux Noël, ce qui se cache derrière le joyeux, c'est les vérités qu'on affirme dans ce credo et dans la Bible que Jésus est Dieu venu pour nous sauver. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas un joyeux Noël. Alors, premier personnage que j'aimerais vous rappeler, c'est mon ami Constantin. Voici les personnages. Et donc, Constantin. Pendant une bataille, Constantin voit une vision de la croix, soi-disant, et il se convertit au christianisme. Et par la suite, il décrète le christianisme comme religion officielle de l'Empire. Ce n'est peut-être pas la meilleure formule, la meilleure méthode, mais c'est mieux que la persécution partout. Constantin est jeune, son empire reste fragile, et il voit bien qu'une source de division et de fragilité, ce sont les débats et les désaccords entre chrétiens. Donc, il convoque la première pastorale, une première convention chrétienne du monde entier, avec les responsables d'église, et il le convoque à Nicée. Ce qui est assez intéressant, c'est que lui-même a personnellement pris en charge tous les frais de déplacement et d'hébergement de tous les responsables, on les appelait les évêques à l'époque. Et c'est lui qui a ouvert le concile par un discours sur l'unité. Et vous pouvez aller sur Internet, mais quand il a commencé l'ouverture, on dit qu'il était habillé comme un rockstar, un peu comme ça peut-être. Ses habits scintillaient, tout ça. Donc, ça, c'est Constantin. En tout cas, lui, on comprend, il veut l'unité de son empire. C'est bon pour les affaires, tout ça. Donc, il y a tous ses pasteurs. Donc, il a réussi à faire venir 318 évêques qui sont venus, certains de très loin, de la Perse, de ce qui est l'Ukraine, la Russie moderne, de la Libye. Donc, ils viennent de partout, ce qui est fort de voir quand même une expression de l'unité chrétienne. L'idée en soi d'un concile se trouve quand même dans la Bible, quand ils se sont réunis en Actes 15 à Jérusalem pour traiter une question doctrinale. Donc, il y avait un précédent. Là où c'est plus délicat, on pense à Constantin, c'est cette fusion entre l'empereur, le pouvoir de l'État, et l'Église. Aujourd'hui, on ne demandera pas forcément à Macron ou à notre dirigeant de présider nos pastorales. Ce serait limite. Et à partir de Nicée, c'est un des bémols de Nicée, à partir de Nicée, on va voir de plus en plus de mélange entre le pouvoir de l'État et le pouvoir de l'Église, ce qui va causer des problèmes par la suite. Donc quand je parle de l'héritage du Nicée, il y a des bonnes choses et puis il y a des choses à prendre avec un peu de recul. Mais on comprend Constantin qui veut l'unité et la paix. Encore aujourd'hui, les dirigeants, ils voient eux-mêmes... Il voit des religions, il voit même des branchements au sein du christianisme. Ce n'est pas forcément facile pour eux de gérer. Donc, eux, on comprend qu'ils veulent l'unité et la paix. Et ce que veut Constantin. Mais Dieu a utilisé cette convocation pour lancer les débats. Or, la grande question, comme nous avons dit au concile de Nicée, il y avait plein de petites questions, mais la grande question, ce qui a créé la division un peu partout dans l'Empire, concernait la personne de Christ, notamment la divinité de Christ. Tout ça suite à un débat autour du personnage suivant, c'est Arius. Voilà, Arius. Arius était ancien dans son église en Alexandrie, c'est une ville en Égypte. Et lui, il lit sa Bible, il lit ses versets qui parlent de Jésus le Fils. Et pour lui, voilà, Jésus est un fils, mais forcément un fils, il a un commencement, il a un début. Pour lui, inné au sens du mot fils, c'est qu'il y a la notion de naissance, de commencement, de début. Si quelqu'un est fils, c'est qu'un jour il est né. Il n'était pas avant et après il est né. Donc c'est ça, un fils. Un fils a une cause. Mais pour lui, la définition de Dieu, c'est quelque chose sans cause. Donc si on parle du fils, ça ne peut pas complètement être Dieu. Alors sa grande phrase à Arius, qui a la devise, ou la petit slogan qui a parcouru l'Empire, c'est que c'était « Il fut un temps où le fils n'était pas ». Il fut un temps, pour Arius, il fut un temps où le Fils n'était pas. Donc il voulait bien l'appeler un dieu, un petit dieu, un demi-dieu. On peut chanter certains cantiques le concernant, mais qu'on garde en tête qu'il fut un temps où le Fils n'était pas. Alors là, ça fait réfléchir parce que c'est pas tout à fait ce que comment Jésus est décrit dans la Bible. Et donc ces idées, les idées d'Arius, sont contestées par le pasteur, l'évêque de son église, qui s'appelle Alexandre. Donc voilà, Alexandre. Alexandre d'Alexandrie, c'est facile à s'en souvenir. Et Alexandre, lui, il entend le discours d'Arius, mais lui, il veut préserver les nombreux textes qui mettent Jésus comme l'égal de Dieu. Ce matin, on l'a répété souvent, et tu l'appelleras Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alexandre aime bien les versets comme Hébreux 13, 8 qui dit « Jésus est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. » Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pour lui, si Jésus est le même depuis toute éternité, les idées d'Arius ne marchent pas. On ne peut pas dire « il fut un temps où le Fils n'était pas ». Ça représenterait un changement pour Jésus. Et même il réfléchit, le Père, ça parle du Père éternel. Le Père est éternel. Donc, notre Dieu est Père éternellement. Donc, si Dieu est Père éternellement, le Fils doit aussi être éternel. En plus, hormis beaucoup de textes bibliques qui montrent que Jésus est Dieu, Alexandre aussi veut préserver le culte chrétien, où clairement, lorsque les chrétiens, même en s'inspirant des exemples du Nouveau Testament, les cantiques, Jésus est adoré dans nos cultes chrétiens. Vous l'avez déjà vu ce matin. Il est adoré dans nos prières, il est adoré dans nos cantiques, il est adoré dans la formule de baptême. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce matin, on a chanté « Reçois l'adoration Emmanuel ». Donc, nous avons adoré Jésus-Christ. Et normalement, on n'adore que Dieu seul. Tout en... Mais c'est ça le défi du message chrétien, c'est ça ce qui a fait poser des questions. Dans la Bible, clairement, on adore Dieu le Père, on adore Jésus, qui est distinct du Père, mais on dit quand même qu'il y a un seul Dieu. Et c'est ça qui a nécessité la réflexion. C'est quoi cette foi chrétienne où on dit un seul Dieu, et puis on adore Dieu et on adore Jésus? Comment préserver un tel culte? Voilà le souci d'Alexandre. Alors lui, il condamne les enseignements d'Arius et il le suspend de ses fonctions. Mais Arius arrive à propager ses idées et ça devient une grande source de division à travers l'Empire. Il faut dire qu'à l'époque, comme je dis, nous sommes héritiers quand même d'un passé. À l'époque, il sortait des siècles de persécution. Donc il y avait déjà moins de ressources, moins de livres, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les instituts bibliques, les facultés théologiques. Donc même moi, je me dis, qu'est-ce sera ma foi si j'avais que quelques épîtres, un évangile parmi les quatre, et que je n'avais pas l'héritage de ma famille, l'héritage de mon pays, l'héritage des siècles de ressources, si je n'avais pas accès à pain de vie en librairie, qu'est-ce que... ce serait peut-être certainement plus fragile. Nous avons tout ce qu'il faut dans la Bible, mais heureusement, il y a un héritage de théologie qui, de sorte qu'on n'a pas besoin, chaque génération, de recommencer à zéro. Et donc, c'était un peu leur cas. Ils sortaient des années de persécution. Souvent, les livres ont été brûlés. Les pasteurs et les théologiens ont été souvent mis en martyr, donc on comprend qu'il y a des fragilités dans la compréhension de l'Évangile, tout comme on va trouver dans certains pays où l'Évangile vient d'arriver. Il y a des fois des idées très bizarres, et bien, manque d'enseignement, manque de ressources, manque d'héritage chrétien. Donc, c'est le cas, un peu, ça crée cette division dans tout l'Empire, et donc rendez-vous à Nicée pour les pasteurs, pour les évêques du monde entier, pour trancher la question. Alors, Arius, le concile, c'est que pour les évêques. Arius n'est qu'un un ancien. Et donc, lui, il ne siège pas au concile. Ses idées sont reprises par un autre évêque qui s'appelle Eusèbe de Nicodémie. Nicodémie, c'est pas loin de Nicée et de Constantinople. Et lui, il représente la position de Arius contre Alexandre. Donc parmi ces 318, certains penchent plutôt pour Eusèbe et Arius, d'autres penchent plutôt pour Alexandre, mais ils commencent quand même un débat, une discussion, ils prennent le temps, le concile dure plusieurs mois même. Certains sont d'un côté, d'autres de l'autre côté. Mais dans le but de quand même arriver à un consensus. Et donc, ils travaillent sur ce texte, qu'est-ce que nous croyons, comment nous le croyons. Et même les premières phrases, ceux qui sont avec Arius disent, oui, première phrase, nous croyons un seul Dieu, ça passe, Père Tout-Puissant, tout va bien. Un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est à Dieu. Certaines phrases, ils disent, oui, ça nous arrange. On le comprend à notre façon, petit D, pas grand D, hein, c'est pas le problème. Mais le mot qui a vraiment déclenché les grands débats, c'est le mot, la même substance, consubstantielle. Donc, tout le débat a été là. Est-ce que Jésus est de la même essence, la même substance de Dieu? En grec, c'est le mot qui vient de être. Quand Jésus dit « je suis », en se réclamant du nom de Dieu, le Dieu l'éternel, c'est le Dieu qui est, je suis celui qui suis. Jésus reprend ça, je suis. Et donc le grand débat, c'était est-ce qu'il est de la même essence, de le même être, de la même substance que Dieu. Arius voulait bien dire, il est similaire, mais pas pareil. Alors, et en grec, le grand débat, c'est entre deux mots, et la seule différence, c'était une lettre I. Donc c'est un peu la blague de l'époque. Le monde se déchire sur une seule lettre, la lettre I, qui se trouvait en grec, bien sûr, pas en français, dans ce mot soit consubstantiel ou de substance similaire. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est après discussion et débat, tous les évêques, tous les pasteurs, sauf deux, sauf Eusèbe et un autre, ont souscrit à la forme finale du credo, telle qu'elle a été adoptée. Et ça, je trouve beau. Ils se sont tous mis ensemble, ils ont fait un travail, ils se sont penchés dans leur Bible, ils ont réfléchi, ils ont dit voilà ce que nous en croyons, ils ont réussi à convaincre tout le monde que c'est ça la position biblique. Vous voyez aussi bien que le concile de Nicée n'a pas inventé la divinité de Jésus, n'a pas inventé l'idée de la Trinité, mais ils ont cherché des mots, ils ont cherché une confession de foi, ils ont cherché une articulation pour résumer fidèlement l'ensemble des enseignements de la Bible sur le sujet de Jésus, de Dieu. Et vous aurez, je pense, du mal à mieux faire que eux avec ce symbole et les autres qui ont suivi pour articuler vraiment qui est Jésus. Je trouve des idées intéressantes. On dit que, en croyant un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance de Dieu, Dieu de Dieu, alors qu'est-ce que c'est Dieu de Dieu? C'est bizarre, mais c'est un peu précisé, lumière de lumière, ça on comprend un peu mieux. Il peut y avoir la lumière du soleil, et puis un rayon de lumière, c'est pareil, mais c'est distinct. Et donc, ils voyaient dans l'image de la lumière, qui est une image biblique, une aide pour comprendre comment ça peut être pareil et distinct. Vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait. Donc, la notion d'engendrer, c'est un engendrement éternel. C'est pas un jour qu'il a commencé à exister, mais il émane du Père, mais il n'était pas fait, il n'était pas créé. D'autres phrases sont importantes. Il est le Père, le Dieu que nous confessons, est créateur de toutes choses visibles et invisibles. Mais Jésus aussi, par qui tout a été fait, ce qui est au ciel et sur la terre. Donc Jésus ne fait pas partie des choses invisibles ou visibles que Dieu a créées. Lui, il est créateur comme Dieu le Père. Donc tout ça, ils vont le résumer dans ce credo et ça va servir aux églises du monde entier pour rester fidèles à la pensée biblique. J'aimerais aussi parler d'un autre personnage, puisque c'est Noël, c'est une des raisons que j'en parle de Nicée, c'est qu'à ce concile, il y avait Saint-Nicolas. Le Saint-Nicolas que nous connaissons, en fait, à Saint-Nicolas, avant tout, c'était un évêque, Nicolas de Myre. Donc oui, le futur Saint-Nicolas, le futur Père Noël, un peu entre les légendes qui se sont développées. Mais il était là pour réfléchir avec eux. C'est lui qui donnait, il avait cette réputation ou légende d'avoir distribué des cadeaux dans son entourage, d'où l'héritage Père Noël. Mais selon une légende, il y a beaucoup de légendes qui se sont développées autour de Saint-Nicolas, comme vous voyez bien à Noël. Mais selon une légende, il aurait été tellement exaspéré par Arius pendant le débat qu'il l'aurait giflé au visage. Ça, c'est pas le Père Noël que nous... Bon, heureusement, cette histoire est très certainement une légende médiévale exagérée, mais elle est racontée depuis 1700 ans. Et donne de quoi alimenter beaucoup de blagues sur Internet. Et un jour, mon ami Chris m'a souhaité joyeux Noël avec ce mème. Je suis venu distribuer des cadeaux et tabasser des hérétiques, et je n'ai plus de cadeaux. Mais le personnage que vous pouvez admirer encore plus, et qui, quelque part, a sauvé Noël, a gardé la joie de Noël, c'est un certain Athanase. Et il a joué un rôle majeur par la suite de ce concile. Or, ce qui est un peu curieux, c'est que malgré la décision du concile de dénoncer les erreurs d'Arius et d'affirmer la divinité de Christ, Constantin a plutôt choisi le camp d'Arius. Comme quoi, Constantin n'était pas toujours... le souci n'était pas toujours vraiment resté fidèle à la Bible. Mais Constantin, il a choisi plutôt le camp d'Arius et il a été baptisé par Eusèbe à la fin de sa vie. Et ce qui a créé un défi pour les églises, c'est que maintenant que Constantin et le pouvoir impérial étaient du côté d'Arius, c'était beaucoup en trouver plus commode de suivre le politiquement correct. Et donc l'arianisme a continué à gagner du terrain malgré la prise de décision assez claire du concile. Et encore aujourd'hui, encore les églises aujourd'hui peuvent être tentées de suivre plutôt le politiquement correct dans leur confession, dans leur doctrine, dans leur éthique, que de rester fidèles à la Bible. Ça reste toujours un défi pour les églises. Le monde aurait facilement basculé dans l'arianisme à l'époque si ce n'était pas pour le travail d'Athanase, la défense de la foi qu'il a menée par la suite. À l'époque du concile, il était juste un jeune diacre qui accompagnait Alexandre. Mais par la suite, avec les années qui passent, lui-même devient évêque d'Alexandrie, après Alexandre. Et Athanase va passer le reste de sa vie à défendre les positions, la foi chrétienne articulée au concile de Nicée. Mais souvent, contre pas mal d'attaques, pas mal de défis, même le pouvoir impérial pouvait être... Contre lui, il a dû fuir à maintes reprises, il a dû vivre en cachette, il a dû revenir, mais constamment il revenait à affirmer la foi chrétienne, que Jésus est Dieu, que nous croyons dans cette Trinité. Et à un moment il est célèbre parce qu'à un moment on lui a informé que Athanase, le monde entier est contre toi. En ce qui concerne ta vision de la divinité de Jésus-Christ, là, oui, le monde entier est contre toi. Et tout le monde part. C'est plus logique, c'est plus pragmatique, c'est plus saisissable de dire que Jésus n'est pas Dieu. Alors quand on lui a dit que le monde entier est contre toi, il a répondu, alors je suis contre le monde. Voilà, peut-être il nous faut des fois une bonne dose de ce courage. Quand le monde entier part dans un sens, des fois il faut avoir... la présence d'esprit, le courage de dire « Ok, ben, dans ce cas-là, je suis contre le monde parce que j'ai la vérité de la Bible, j'ai mes convictions, j'ai ma confiance, ma conscience. Je suis contre le monde. » Car pour Athanase, et je termine, c'est pas juste un jeu de logique ou un débat sur les mots ou un événement historique comme un autre. Pour lui, la foi confessée à Nicée, les enjeux sont grands, les enjeux pour notre salut éternel, les enjeux pour l'Évangile, les enjeux pour toute la joie de Noël se trouvent aussi dans ces phrases. Pour lui, et Athanase, il a écrit un livre qui s'appelle « Sur l'incarnation ». On évoque souvent à Noël, parce que ça rappelle l'incarnation de Noël, mais dans ce livre, il va défendre les idées bibliques que l'incarnation, c'est Dieu fait chair, Dieu fait homme. Et pour lui, cette incarnation, c'est une nécessité pour le salut. Si Jésus n'est pas Dieu, le salut, l'évangile, ne marche pas. Si Jésus n'est pas Dieu incarné, s'il n'est qu'une créature, ou au mieux, s'il n'est qu'un demi-dieu, il ne peut pas nous sauver de nos péchés. Repensez maintenant au texte que nous avons lu en Matthieu. L'ange annonçait à Joseph que tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous, et tu l'appelleras aussi Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Athanase avait la pertinence de dire, il faut être Dieu pour être sauveur, il faut être Dieu pour sauver des péchés. Parce que sauver, c'est pardonner. Sauver, c'est recréer la vie, c'est recréer une nouvelle humanité, c'est recréer un nouveau cœur en nous, c'est recréer la vie spirituelle. Et un jour, recréer la vie, le monde qui a été abîmé par le péché. Donc, comme Jésus était le créateur de la première création, il est aussi le créateur, le recréateur de notre salut. Et pour ça, il faut être Dieu. Sauver, c'est arracher les hommes de l'emprise du péché, de l'emprise de la mort, de l'emprise de Satan, de l'emprise des démons. Et pour ça, il faut être plus fort encore, chose que seul Dieu peut l'être. Athanase va montrer que la crucifixion, la croix, n'est efficace pour notre salut que si Jésus est Dieu, puisqu'il doit porter le péché de tout son peuple, dans le monde entier. Et ça, un homme ou un demi-dieu, même un ange, ne peut pas faire. Pour Athanase, la résurrection ne marche que si Jésus est Dieu, parce que dans la résurrection, il faut qu'il entraîne tout son peuple avec lui dans la vie et qu'il remporte la victoire. Lazare était ressuscité, mais même cette résurrection de Lazare n'est pas efficace pour le salut de tous. Mais Jésus, puisqu'il est Dieu, sa résurrection a la puissance de nous entraîner dans la vie. Donc vous voyez, si Jésus n'est qu'un demi-Dieu, vous n'avez qu'un demi-salut. D'ailleurs, tous les mouvements qui suppriment la divinité de Jésus basculent dans un salut par les œuvres. Tu dois quand même mériter quand même ton salut. Vous devez vous sauver, vous devez vous racheter de vos péchés, puisque Jésus n'a pas toute la puissance divine pour le faire. Alors que nous, par la suite, les protestants, la réforme va retrouver cette vérité que Jésus seul peut nous sauver de nos péchés. C'est pas nous, c'est pas nos efforts, il n'y a que Jésus. Mais systématiquement, les mouvements qui renient la divinité de Jésus-Christ ne peuvent qu'offrir un salut que vous devez vous-même produire. Et puis enfin, le baptême de Jésus, aussi le baptême de Jésus-Christ. Vous avez vu comment le Père a cette voix qui vient du ciel, qui dit... tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection ou en qui je trouve tout mon plaisir. Dieu ne peut pas dire ça. Dieu ne peut que dire ça d'un être qui est son égal, qui est aussi éternel, qui est infiniment aimable. Et donc si Dieu dit ça de son fils, le fils est aussi son égal, de cette même essence. Et puis Matthieu termine avec cet envoi vers les nations, ce mandat pour faire des disciples. Et là encore, Jésus, même dans les textes, on voit que Jésus est Dieu, puisqu'il peut dire tout pouvoir et toute autorité m'est donné. Il envoie, allez, faites de toutes les nations, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a au moins 3 ou 4 implications dans ce verset qui montrent que Jésus est Dieu. Et Athanase voulait signaler ça aussi, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons en quelque sorte la preuve que Jésus est Dieu, parce qu'il est encore agissant dans ce monde et dans nos vies. Nous sommes là. J'aime bien ce qu'il dit dans l'incarnation. Le Sauveur œuvre puissamment parmi les hommes. Chaque jour, il persuade invisiblement un grand nombre de personnes à travers le monde à accepter sa foi et à obéir à son enseignement. Car là où le nom du Christ est prononcé, l'idolâtrie est détruite et la supercherie des mauvais esprits est dévoilée. C'est l'œuvre de celui qui vit et non d'un mort. Et plus encore, c'est l'œuvre de Dieu. Et quand on voit ce que Dieu fait dans la vie de Jean-Élie ou dans votre vie et qui maintient encore ses églises aujourd'hui, nous croyons que c'est pas l'œuvre d'un homme, d'un petit Dieu, c'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant que nous confessons comme Jésus-Christ. Alors encore ce matin, je vous rappelle, je vous souhaite un joyeux Noël depuis Nicée. Je crois que votre Noël, votre éternité sera joyeux si vous confessez, si vous connaissez un tel Sauveur, un tel Dieu, qui est venu pour nous, pour notre salut. Il s'est incarné à Noël, le Dieu, pour nous entraîner dans la vie, pour nous recréer. Et voilà ce que nous confessons dimanche après dimanche. Voilà ce que nous vivons. Et nous sommes la preuve aussi qu'il est vivant, qu'il est actif. Je vous invite à terminer dans la prière. Seigneur, merci pour notre héritage chrétien. Merci pour les chrétiens qui ont été fidèles dans les générations précédentes. Merci pour la manière que tu as préservé une foi fidèle, biblique, orthodoxe, en utilisant des fois même des hérésies, des problèmes, des disputes pour nous aider à peaufiner ce que nous croyons, ce qui est juste, une bonne compréhension de ta parole. Et nous te prions qu'à notre tour, nous soyons fidèles, nous sachions préserver l'évangile de toute erreur, nous sachions le vivre, la croire dans nos cœurs. Le tout n'est pas juste de réciter un credo machinalement, mais de saisir vraiment le salut en Jésus-Christ. Et nous te remercions pour cette joie qui nous met de savoir qu'il est venu nous sauver, nous pardonner, ressusciter pour notre salut. Nous la voyons illustrée ce matin dans le baptême de Jean-Élie. Nous allons le chanter encore cet après-midi à Toulouse. Et nous te prions que encore il y a un peuple nombreux qui puisse entendre et reconnaître que tu es le roi et croire dans ces mêmes vérités pour le salut éternel. Béni sois-tu. Amen.